Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afrique contre-attaque, épisode 21. Nous avons donc laissé la reine Hatshepsut apprenant de cette divinité, cette énergie, de ce Ndélé qui est Hathor, mais qu'on peut aussi associer à une grande déesse mère, s'il faut l'appeler comme ça, qui est autre que Neit, car nous avons passé en revue l'article, l'essai du chercheur Hazar Imhotep sur les origines africaines du mot Nike, de la déesse Nike, qui nous renvoie à cette déesse dite Hathor, à cette racine consonantique NHT, mais qui pourrait aussi être apparentée à celle de Neit. Neit aussi qui est cette image de Dieu, d'une grande divinité primordiale qui crée l'univers, mais qui est aussi extrêmement guerrière, car c'est une déesse aussi de la guerre, du Nord. Et d'après Hérodote, Hérodote va partager que les anciens Égyptiens vont assimiler Neit à Athéna. Ce qui est plutôt assez contradictoire, car Athéna étant postérieure à Neit, eh bien, en réalité, Hérodote veut simplement nous dire que Athéna avait été assimilée à Neit, car Neit était une déesse de l'intelligence, mais aussi de la guerre. C'est ce qui la définissait plus, c'était la guerre. Donc son nom, c'est sa racine consonantique là, NHT, son nom de Neit, est semblable à ce qui nous donnera, à ce que Hazar Imhotep a voulu associer à Hathor. Hathor, donc, qui dit Hathor, voit donc obligatoirement Isis. Isis qui est représentée vraiment comme le sera Nike plus tard, c'est-à-dire une déesse avec des ailes sous les bras ou derrière ou sur accroché au dos. Et bien cette image là de Nike avec des ailes, et bien c'est simplement cette image de la femme, de ce qui est Isis, de ce qui est Hathor, de ce qui est Neit, de cette déesse guerrière. Et on l'a dit que Nike était associé obligatoirement à Athéna. Et bien c'est la même chose ici. Hathor ou Isis est associé obligatoirement à Neit, qui est cette divinité guerrière, qui va certainement aussi impressionner ou inspirer la jeune Karama, la jeune Hatshepsut, qui, de par son initiation, va donc connaître tous les rouages de la politique, car elle va vouloir comprendre comment son monde fonctionne, car son père étant dirigeant, son père étant un homme de pouvoir, eh bien elle aspire aussi à ce pouvoir. Hatshepsut donc avait une relation très privilégiée avec son père, ils étaient très proches, et c'est probablement de lui qu'elle a appris, en le regardant, a pris les rouages du pouvoir et à vouloir être comme lui, à vouloir l'imiter. Son père était un chef militaire, un pharaon, Thoutmose Ier, et il a mené plusieurs campagnes aussi bien au nord, vers la Syrie, que dans le sud, avec ce qu'on appelle la Nubie. On va plutôt appeler Kerma ou les Néhessi, car la Nubie, vous savez, c'est une espèce de galipette, hein, de phénomène pyrotechnique que les égyptologues utilisent pour essayer de faire croire que toute l'Afrique noire centralisée ou indiquée tout simplement par le terme de Nubien, et que les Égyptiens étaient tout le temps en conflit avec eux simplement à cause de leur couleur de peau, parce qu'ils étaient noirs ou africains, ou voilà. Il y avait certes des conflits, mais les Égyptiens savaient très bien qu'ils venaient de ces régions-là, et ils savaient très bien définir qu'il y avait plusieurs populations qui habitaient ces régions, aussi bien ceux de Kerma, les fils de Kouch, que ceux du pays de Punt, que les Tameko ou autres. Il y avait des populations différentes. Donc quand on dit Nubien, ces gens ne s'appelaient pas Nubien, le mot Nubien est venu bien beaucoup plus tard, nous l'avons déjà dit ici. Donc le père d'Hatshepsut mènera plusieurs campagnes, comme nous l'avons dit, au niveau du nord et au niveau du sud. Et cette série de campagnes militaires a sûrement influencé la fille qu'elle était, voyant son père, avec qui elle passait certainement beaucoup de temps, aller en guerre, aller au combat, et en revenant, il revenait certainement avec ses histoires de triomphe, ses histoires de guerre que sa fille certainement aimait écouter avant de s'endormir. Car il est fait mention dans les textes égyptiens récit étrange que Toutmosis Ier ramène en Égypte après sa campagne de Syrie, émerveillé ou étonné par les différents flots de l'Euphrate, je pense, du Tigre qui ne coulait pas dans le même sens que le Nil, et cela avait quand même surpris un peu les Égyptiens. Eh bien, il revient avec ses récits de chasse aux éléphants, de chasse d'animaux exotiques, qu'il va probablement raconter à sa fille lorsqu'il revient. Et ces récits vont certainement, peut-être en tout cas, émerveiller la jeune fille qui grandit et qui plus tard se dira, quand je serai grande, eh bien, je ferai comme papa. Et Toutmosis continuera son périple en étendant les frontières de l'Égypte, de la Tamérie, aussi bien au nord jusque vers la Syrie, dans le Moyen-Orient, aussi bien que vers le sud, jusque vers même le pays de Punt. Et voilà pourquoi plus tard, il y aura des expéditions qu'Hatshepsut enverra au niveau du pays de Punt, le pays des ancêtres, car son père ne lui manquera certainement pas de dire que c'est de là que nous venons. Et plus tard, pour légitimer son pouvoir, il enverra des caravanes là-bas pour avoir la légitimité des ancêtres de la terre mère, de la terre fière, qui a donné naissance à cette civilisation Nil. Toutmosis Ier donc va élever une fille charismatique, une fille intelligente, une fille noble, une fille qui a des aspirations, et va certainement partager son savoir avec elle. Elle ne va pas la limiter, mais au contraire, il va mettre en œuvre, certainement, nous l'imaginons, tout en œuvre pour que celle-ci ne se limite pas et ait des aspirations grandes. Comme dans notre société moderne où on veut caser, mettre les gens dans des cases, hein, où on en est encore à un niveau où les gens disent que voilà, la femme c'est la cuisine. Bon, vous voyez vraiment qu'on est au 21e siècle, mais que le cerveau a vraiment régressé. Car je vais m'atteler à challenger même une pensée d'Einstein. Einstein qui disait que si vous prenez, essayez de convaincre un poisson, vous essayez de mesurer le talent d'un poisson par rapport à sa capacité à grimper aux arbres, eh bien, ce poisson risque de croire qu'il est complètement idiot. Et vous connaissez sur le net cette image d'un professeur qui est dans une jungle et qui prend un éléphant, un poisson dans un bocal, un singe, un pingouin et je sais pas quel autre animal et qui demande, qui dit, voilà, je vais être juste avec vous tous, je vais vous donner tous le même examen. Grimpez à cet arbre. Ce qui est complètement stupide. On utilise ça souvent pour critiquer le système éducatif où on donne les mêmes tests à tout le monde pour essayer d'évaluer leur talent, et on dit voilà, on va tous vous donner le même examen, on va tous vous traiter comme si vous étiez les mêmes, et après chacun sera prêt à réussir dans le vrai monde, comme on dit, the real world. C'est vrai que c'est un paradigme, un exemple qui est utilisé, qui est assez frappant, qui frappe les esprits pour se dire que voilà, on peut pas demander à un poisson dans un bocal de grimper un arbre ou un éléphant de grimper un arbre. On sait très bien que le singe est beaucoup plus avantagé à cette opération. Et cela peut susciter justement le fait que l'on va vouloir spécialiser, donc le poisson, on va le juger dans l'eau, l'éléphant, on va le juger sur la terre ferme, et le singe, on va le juger sur les arbres. Chacun aura ce qu'il doit faire. C'est une image intéressante, oui, mais c'est une image aussi dangereuse. Pourquoi ? Parce que cette pensée d'Einstein peut être challengée par la nature. Parce que il y a des poissons-chats, une catégorie de poissons-chats qui grimpent aux arbres. Ah oui, on a des poissons qu'on leur connaît au Congo, par exemple, qui savent grimper aux arbres. Il y a de ces poissons-là. Si vous tapez, poissons qui grimpent aux arbres, il y en a. Il y a des poissons qui arrivent à sortir de l'eau et à marcher et à grimper aux arbres ou à s'accrocher à des rochers. Ça existe. Donc, à ce test-là, le poisson va réussir. Vous voyez ? Donc on peut pas simplement réduire le poisson à nager. Le poisson peut aussi grimper. Il y a des poissons qui peuvent grimper. Donc cette idée là, elle est belle dans sa conception. C'est un paradigme. Elle est intéressante. C'est intéressant. Mais le danger aussi de cette image d'Einstein ou de cette image du professeur qui devrait donc spécialiser tous les animaux dans cet exemple là, c'est aussi de tomber justement dans les clichés. Hein, c'est ça aussi un peu le danger, c'est de tomber dans les clichés. Chacun doit faire ce dans le quoi il est bon, certes. Mais le danger ou la perversité de cette pensée-là, c'est de se dire que, ok, on va aussi cantonner les gens simplement à des choses, ils peuvent pas faire autre chose, ils peuvent pas explorer autre chose. Chacun doit rester dans son coin. Les Africains doivent simplement danser, le Japonais doit faire du karaté, l'Américain, lui, doit diriger tout le monde, le Français, lui, doit faire simplement du pain pour tout le monde. Donc voilà, on reste dans des clichés comme ça. Oui, il y a certainement la théorie des avantages comparatifs dont on parle en économie. hein. C'est-à-dire qu'on doit utiliser ses forces pour pouvoir gagner dans le jeu économique, ça c'est certain, mais cela ne doit pas empêcher à des personnes aussi de se spécialiser dans des branches dans lesquelles on ne les voit pas certainement et qui peuvent tirer leur épingle du jeu d'une manière aussi intéressante. Il n'y a pas un seul diamant en Israël, mais c'est eux qui ont les plus qui maîtrisent l'industrie des diamants dans le monde. Il n'y a pas un seul diamant en Belgique, mais la bijouterie à Anvers, elle a pignon sur rue, elle est lucrative. Donc voilà, le Congo qui dans le centre a des mines et des diamants, du coltan à ne plus savoir qu'en faire, ne transforme pas ses propres diamants, ou ne produit pas de téléphones portables. Bon, c'est vrai que maintenant il y en a qui s'y lancent un peu. Il y a par exemple le Congo Brazzaville avec Mankou, il y a un entrepreneur jeune congolais qui fait ses tablettes et je crois ses smartphones aussi qui est en train d'innover là-dessus. Mais c'est encore jeune, c'est bourgeonnant. Donc cette image, elle est bonne, mais elle est aussi dangereuse. Donc le papa de Karama, de Hatshepsut, n'a pas vu en sa fille simplement quelqu'un qui n'était que voilà, c'est une femme, elle sera juste bonne à régner à côté de Thoutmôsis II, son frère ou beau-frère, avec qui elle va se marier, car c'était parfois courant d'aller dans la cour égyptienne, pas au niveau du peuple, ça ne se faisait pas. Même la polygamie, c'était chez le pharaon, pour des raisons de succession, tout ce que vous voulez, même si on veut cacher que c'est pour le plaisir du roi aussi, mais dans le peuple comme tel, non, pas tellement, pas vraiment, c'est la monogamie que l'on trouve chez les anciens égyptiens. Au niveau du roi peut-être, au niveau pas roi peut-être, mais il y a les harems vrai, qu'on retrouve, c'est pas peut-être, c'est une certitude. Il y a la polygamie au niveau du roi, mais au niveau du peuple non, la population est plutôt monogame, c'est monogame. Donc ce que le pharaon fait, c'est plutôt exceptionnel, c'est pas la règle que tout le monde doit se comporter comme ça, avoir plusieurs femmes, tout ça, non. C'est pas vu de cette manière-là dans le quotidien même des Kemptiou, des Kemites, des anciens africains. Donc Thoutmôsis Ier, papa, père de Karama, Hatshepsut, voit donc en sa fille donc quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui peut apprendre beaucoup, qui peut faire beaucoup. Car si Hatshepsut prend cette décision-là de devenir roi, si cette reine décide de devenir roi et de régner l'Égypte, de régner sur l'Égypte, de diriger l'Égypte, c'est pas un coup de tête, c'est pas qu'elle s'est réveillée comme ça. Ah ok, l'enfant est trop jeune pour Thoutmôsis III, est trop jeune. Bon moi, ok, je vais m'improviser pour régner. Non, elle s'improvise pas. Elle préparait ces choses, c'est-à-dire que oui, son père est mort à un âge avancé, mais après, quand il a fallu prendre le pouvoir, elle n'a pas eu froid aux yeux. Elle a sauté sur l'occasion. C'est que son père l'avait préparé pour ça. Son père l'avait préparé pour ça, et je crois qu'avant sa mort, avant qu'il ne meure, Thoutmôsis étant déjà trop jeune, son père savait certainement que c'était l'option à prendre. Donc son père l'a préparé, savait que voilà, j'ai un bébé qui est né, c'est le prochain qui est au trône. Mais il sera jamais prêt à temps. Car la mort peut venir me prendre à tout moment. Eh bien, il prépare sa fille. C'est une opinion personnelle, mais je le pense qu'il prépare sa fille. Sa fille s'était déjà préparée. Elle savait ce qu'elle devait faire, qu'elle n'a pas eu froid aux yeux pour prendre les commandes du pouvoir ou de la Tamérie, de l'Égypte, de la terre bien aimée. Donc, cette relation donc particulière donc entre Hatshepsut et son père, qui se traduit aussi par le fait que lorsque son père décède, rejoint les ancêtres, eh bien, cela va presque briser à Karama, hein, parce que son père, avec qui elle avait une relation très proche, fusionnelle presque, eh bien, son père meurt, et eh bien, elle ne s'en remet presque pas, elle pleure. C'est ça, là, la culture africaine, quand on perd son père, quand une femme perd son père, surtout quand elle avait cette relation privilégiée-là, eh bien, ça détruit, elle n'est presque plus la même. Et les Égyptiens, vous savez, ils pleurent comme en Afrique centrale, comme en Afrique noire. Vous avez les pleurs, les pleureuses qui viennent. Il y a un deuil qui se manifeste pendant plusieurs jours. Hatshepsut, certainement, est affecté par cela. Et le tombeau, le sarcophage dans lequel il est et qu'elle prépare pour lui, eh bien, témoigne de ces choses. Car par les inscriptions que l'on voit, eh bien, on peut témoigner d'Hatshepsut qui parle de son père, le tombeau qui est certainement utilisé pour l'enterrer, est un tombeau magnifique. Il est embaumé avec les plus grands soins et qu'une grande cérémonie est appliquée au moment où il est enterré. Et il se murmurerait que Thoutmôsis Ier serait le premier à être enterré dans la grande vallée des rois, qui devrait se situer à l'ouest, hein, parce que à l'ouest du Nil, car l'ouest c'est le royaume des morts. Donc je pense que ça devrait être à l'ouest du Nil. Eh bien, les premiers, si pas le premier, l'un des premiers rois du moins, à être enterré dans cette vallée des rois, donc cette grande nécropole, cette grande vallée majestueuse où les grands rois vont être enterrés. C'est un honneur. Thoutmôsis I n'est pas n'importe qui. Hatshepsut lui donne des obsèques pharaoniques, royales, majestueuses, car elle se doit de rejoindre maintenant les ancêtres dans les étoiles, dans l'au-delà. Mais il ne partira pas sans avoir pris soin de former une fille qui deviendra roi. Pendant les obsèques de son père, elle se souvient certainement des moments passés ensemble, privilégiés, des moments passés en visitant les temples de Kemet, les moments passés dans la barque du Nil, sur les barques du Nil, visitant les différents points stratégiques, assis peut-être sur ses genoux, regardant de loin le plateau de Gizeh, les grandes pyramides, pendant que son père lui racontait, eh bien, leurs origines, le pays de Punt, qu'il aurait certainement voulu lui faire visiter, mais que le temps, les responsabilités de l'Égypte ne lui permettaient certainement pas de faire ce voyage et de lui montrer la terre des ancêtres où il venait. Donc, ce roi guerrier a certainement influencé Hatshepsut, bien que nous l'avons dit, son règne sera illustré par la paix, mais la guerre aussi l'intéressera à travers Neith, certainement, dans son initiation. Elle saura qui est Neith, elle saura qui est Hathor, qui donnera plus tard Nike, la grande marque Nike de chaussures qui aujourd'hui enrichit Serena Williams, Naomi Osaka, dont le père est haïtien et la mère japonaise. Les deux sont les athlètes les mieux payés. Ce sont des femmes puissantes qui dominent leur domaine, dans le tennis, s'il faut citer ce domaine. Ce sont des reines maintenant qui donnent beaucoup d'inspiration à beaucoup d'autres athlètes, que ce soit femmes ou même hommes. Et voilà comment l'histoire africaine influence est toujours vivante aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Vie, durée et santé. C'était Hatshepsut, sa vie, son pouvoir, la reine qui deviendra roi. Nous avons parlé de sa relation avec son père. Nous avons parlé de Neith, cette image divine de Dieu, cette image féminine de Dieu qui a créé l'univers, mais qui est aussi guerrière et qui l'a inspiré. Nous avons parlé des obsèques de son père, dans l'émission qui était avant, nous avons parlé des origines de Nike, des origines africaines de Nike, dans son étymologie, comment est-ce que ça nous renvoie à Hathor, mais aussi à Neith. Pour plus d'informations, il faut voir le document de Hazar Imhotep sur les origines africaines de la marque, le nom de Nike. Évidemment, il ne suffit pas simplement de dire « Ah, voilà, Nike aussi c'est africain, Nike aussi c'est africain ». Il y a eu du travail, il y a eu aussi de la sueur qui a été mise en qui a été dépensée pour que cette compagnie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Évidemment, on ne va pas la glorifier simplement, hein. On sait très bien qu'aussi elle est ce qu'elle est grâce aux aberrations du capitalisme où on fait travailler des enfants, hein, au niveau de l'Asie là-bas, hein, pour pouvoir vendre ça au prix le plus fort par moment, hein, pour certaines marques qui sont associées à des athlètes. Donc on va pas venir ici simplement chanter que oh, Nike, c'est les forts, quand on travaille dur et qu'on est persévérant, on réussit. Le capitalisme, c'est une espèce de cerbère, hein, donc une espèce de canin avec espèce de d'animal à trois têtes, hein, une espèce d'hydre, s'il faut rester dans les mythologies grecques, une espèce d'hydre qui a plusieurs têtes, hein. Elle a une tête là du succès qu'elle vous montre, c'est elle la persévérance, mais il y a d'autres têtes que l'on cache, hein. C'est l'arbre qui cache la forêt ou c'est la tête qui cache les autres hydres. Donc c'est un peu ça. Mais voilà, dans la Renaissance africaine, nous avons besoin aussi de champions nationaux. Nous avons besoin aussi que nous puissions investir dans nos propres marques, dans nos propres concepts, logos. Et beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train d'investir dans des concepts qui étaient à la base africaine, mais qui maintenant, ils s'associent tout simplement aux Européens, aux autres. Et pour avoir aussi champions nationaux, eh bien, il faut travailler, il faut avoir des inspirations comme Hatshepsut, comme Serena Williams, comme Naomi Osaka. Il faut avoir des modèles vivants qui inspirent. Karama s'est laissé inspirer par son père, elle s'est laissé inspirer par Nate, elle s'est inspirée par cette tradition matriarcale dans laquelle elle a baigné, où on ne disait pas que la femme c'est simplement la cuisine, non. Elle a baigné dans un environnement où on lui disait que la femme elle est la matrice de l'univers, la femme dirige, la femme c'est elle qui est à côté de la du père, c'est elle qui est à côté de l'homme, et sans la femme, voilà, il y a pas de management, il y a pas de leadership, il y en a pas, quoi. Donc elle a grandi dans un paradigme qui est totalement différent du nôtre maintenant, où quand on voit une femme au pouvoir, voilà, c'est une innovation, alors qu'en Afrique, bref, il y en avait, hein, les Kandaka, puis j'ai parlé des Kandaka, toute une génération de Kandaka, Hatshepsut encore en Égypte, ça paraît comme, oh, c'est une exception, bien que j'ai dit qu'il y avait d'autres reines qui avaient régné aussi. Mais les Kandaka en Nubie, hein, ou dans la Tasséti, hein, parce que c'est pas Nubie, c'est Tasséti, ça s'appelle la Tasséti, la terre de l'arc, hein. En Tasséti là-bas, hein, ce qu'on appelait Éthiopie ancienne, pas l'Éthiopie d'Addis Abeba. En Tasséti là, il y avait beaucoup de reines, les Kandaka, il y a eu plusieurs générations de Kandaka. Et si vous regardez leurs noms, ils sont des noms qui sont typiquement liés à ce qu'on appelle le Swahili, hein, et les langues de l'est du Congo, hein, parce qu'on a beaucoup de reines qui s'appellent Amani. Hein, Amani Renas, hein, Amani Shaketo, hein, les Amani. Amani, c'est tout simplement un mot, c'est un mot qui est une racine qui est tout simplement africaine. Amani, Amen, Amon, qui va donner plus tard au Niamey, Niamey, Nzambi. On en a parlé au cours du 18e épisode, je pense, ou du 19e épisode. On en a parlé. Donc, nous invitons les auditeurs à partager vraiment le lien, partagez la vidéo, partagez le podcast, si ça vous fait du bien, si ça vous enrichit, partagez, ça aide aussi le média. Si vous ne partagez pas, eh bien, on risque de se décourager et à peut-être investir un autre média, parce que un média qui peut-être qui touchera beaucoup plus de personnes. Donc, on a besoin de votre aide, de votre soutien. Marquez que vous aimez. Si vous utilisez l'application, marquez que vous aimez. Envoyez-nous des messages. Il y a possibilité d'envoyer des messages vocaux. Partagez le lien avec des proches, envoyez en inbox, envoyez, postez sur vos pages Facebook, dites-nous votre feedback, quel sujet vous aimeriez qu'on puisse toucher. Nous sommes toujours avec Hatshepsut, nous n'avons pas fini, il y a encore beaucoup à raconter sur elle, beaucoup à dire, elle est très inspirante, mais on vous prie de partager, de parler autour de vous, d'écouter le podcast ensemble avec des amis, en famille, surtout en cette période de confinement en tout cas. Beaucoup s'ennuient, beaucoup sont au bord de la dépression. Eh bien, vous pouvez faire des groupes de discussion autour de ça, autour de ces sujets, parler de l'Afrique qui se réveille. On voit le président de Madagascar qui maintenant fait le buzz avec le Covid organique, ce médicament là. Mais n'oublions pas que nous sommes d'abord ici pour célébrer la femme africaine. Dire que tout cela, ça a des racines africaines au niveau de l'Afrique, au niveau de la femme africaine, au niveau de Sekhmet, hein, au niveau de Artemis, hein, Artemisia, qui est à l'origine du Covid-19, et bien Artemisia qui vient de Artemis qui vient de Bastet qui vient de Sekhmet. On en a parlé abondamment dans cette émission et nous révélerons encore d'autres secrets. Hatshepsut, Karama, sa vie, son pouvoir, c'est ce que nous avons vu. Vie, durée et santé. Ciao. Bye bye.